Jules Verne, Le Sphinx des glaces. Deuxième partie, chapitre 8. Le coup de grâce. À la besogne, avait dit le capitaine Lenghi dès l'après-midi de ce jour, chacun put s'y mettre avec courage. Il n'y avait pas une heure à perdre. Personne qui ne comprit que la question de temps dominait toutes les autres. En ce qui concernait les vivres, la goélette en possédait pour 18 mois encore à pleine ration. Aussi la faim ne menaçait-elle pas. La soif pas davantage, bien que les caisses à eau, crevées dans la secousse, eussent laissé échapper le liquide qu'elles contenaient à travers les fissures du bordage. Par bonheur, les fûts de gin, de whisky, de bière et de vin, placés dans la partie de la cale qui avait le moins souffert, étaient presque tous intacts. De ce chef, nous n'avions aucun dommage, et l'iceberg allait lui-même nous fournir l'eau douce. On le sait, la glace, qu'elle soit formée d'eau douce ou d'eau de mer, est dépourvue de salure. Par la transformation de l'état liquide à l'état solide, le chlorure de sodium est entièrement éliminé. Il est donc de peu d'importance, semble-t-il, que l'eau potable soit demandée aux glaces de l'une ou l'autre formation. Cependant, on doit accorder la préférence à celle qui provient de certains blocs très reconnaissables, à leur coloration presque verdâtre, à leur parfaite transparence. C'est de la pluie solidifiée, infiniment plus convenable pour servir de boisson. Assurément en habitué des mers polaires, notre capitaine eut sans peine reconnu les blocs de cette espèce. Mais il ne pouvait s'en trouver sur notre iceberg, puisque c'était sa partie immergée avant la culbute qui émergeait actuellement. Le capitaine Lenghi et Jem West décidèrent en premier lieu, dans le but d'alléger la goélette, de débarquer tout ce qui était à bord. Mâtures et gréements durent être démontés, puis transportés sur le plateau. Il importait de ne laisser que le moins de poids possible, de se débarrasser même du lest, en vue de la difficile et dangereuse opération du lancement. Mieux valait que le départ fût retardé de quelques jours, si cette opération devait se faire dans des conditions meilleures. Le rechargement s'effectuerait ensuite sans grande difficulté. Après cette raison déterminante, il s'en présentait une seconde, non moins sérieuse. En effet, c'eût été agir avec une inexcusable imprudence que de laisser les provisions dans les soutes de l'Albrain, étant donné sa situation peu sûre sur le flanc de l'iceberg. Une secousse ne suffirait-elle pas à la détacher? Le point d'appui ne lui manquerait-il pas si les blocs de sa souille venaient à se déplacer? Et alors, avec elle eussent disparu ses provisions qui devaient assurer notre existence. On s'occupa ce jour-là de décharger les caisses de viande au demi-sel, de légumes secs, de farine, de biscuits, de thé, de café, les barils de gin, de whisky, de vin et de bière, qui furent retirés de la cale et de la cambuse, puis placés en sûreté dans des anfractuosités à proximité de l'Albrain. Il y eut également à prémunir l'embarcation contre tout accident, et j'ajouterai contre le dessein que Hearne et quelques-uns de sa bande avait peut-être de s'en emparer afin de reprendre le chemin de la banquise. Le grand canot, avec son jeu d'aviron, son gouvernail, sa bosse, son grappin, sa mâture et ses voiles, fut donc remisé à une trentaine de pieds sur la gauche de la goélette, au fond d'une cavité qu'il serait aisé de surveiller. Pendant le jour, rien à craindre. Pendant la nuit, ou plutôt pendant les heures de sommeil, le bossman ou un des autres des maîtres montrait la garde près de cette cavité et, on peut en être certain, l'embarcation serait à l'abri d'un mauvais coup. Les journées des 19, 20 et 21 janvier furent employées au double travail du transport de la cargaison et du dématage de l'Albrain. On élingua les bâmas au moyen de vergues formant bigues. Plus tard, Jem West verrait à remplacer les mâts de hunes et de flèches, et dans tous les cas, il n'était point indispensable pour regagner soit les Falklands, soit quelque autre lieu d'hivernage. Il va sans dire qu'un campement avait été établi sur le plateau dont j'ai parlé, non loin de l'Albrain. Plusieurs tentes, au moyen de voiles disposées sur des espars et retenues avec des faux bras, recouvrant la literie des cabines et du poste, offraient un abri suffisant contre les inclémences atmosphériques déjà fréquentes à cette époque de l'année. Le temps du reste se tenait au beau fixe, favorisé par une brise permanente de nord-est, la température étant remontée à 46 degrés, 7,78 degrés centigrades sur zéro. Quant à la cuisine d'Endicott, elle fut installée au fond du plateau, près d'un contrefort, dont la pente très allongée permettait d'atteindre l'extrême cime de l'iceberg. Je dois reconnaître que durant ces 3 jours d'un travail des plus fatigants, il n'y eut rien à reprocher à Hearn. Le Sailing Master se savait l'objet d'une surveillance spéciale, comme il savait que le capitaine Lenghi ne le ménagerait pas s'il s'avisait de provoquer ses camarades à l'insubordination. Il était fâcheux que ses mauvais instincts l'eussent poussé à jouer ce rôle, car sa vigueur, son adresse, son intelligence en faisaient un homme précieux, et jamais il ne se montra plus utile qu'en ces circonstances. Était-il revenu à de meilleurs sentiments? Avait-il compris que de l'entente commune dépendait le salut commun? Je ne pouvais le deviner, mais je n'avais guère confiance, Hurliguerly non plus. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'ardeur que le métis déployait dans ses rudes travaux, toujours le premier et le dernier à la besogne, faisant l'ouvrage de 4, dormant à peine quelques heures, ne se reposant qu'au moment des repas qu'il prenait à l'écart. À peine m'avait-il adressé la parole depuis que la goélette avait été victime de ce terrible accident. Et qu'aurait-il pu me dire? Ne pensais-je pas, comme lui, qu'il fallait renoncer à tout espoir de poursuivre cette malheureuse campagne? Il m'arrivait parfois d'apercevoir Martin Holt et le métis, l'un près de l'autre, s'occupant de quelques manœuvres. Notre maître voilier ne négligeait aucune occasion de se rapprocher de Dirk Peters, qui le fuyait pour les raisons que l'on connaît. Et lorsque je songeais à la confidence qui m'avait été faite au sujet du soi-disant Parker, le propre frère de Martin Holt, à cette affreuse scène du Grand Pouce, j'étais saisi d'une profonde horreur. Je n'en doute pas, si ce secret eût été dévoilé, le métis fût devenu un objet de répulsion. On aurait oublié en lui le sauveteur du maître voilier, et celui-ci, en apprenant que son frère... Heureusement ce secret, Dirk Peters et moi nous étions seuls à le posséder. Tandis que s'opérait le déchargement de l'Holbrain, le capitaine Lenghi et le lieutenant étudiaient la question du lancement, question grosse de difficulté, à coup sûr. Il s'agissait de racheter cette hauteur d'une centaine de pieds, comprise entre la souille, où gîtait la goélette et le niveau de la mer. Au moyen d'un lit creusé suivant un tracé oblique sur le flanc ouest de l'iceberg, lit qui devait mesurer au moins 2 à 3 centoises de longueur. Aussi, pendant qu'une première équipe, dirigée par le bossman, s'occupait à décharger la goélette, une seconde, sous les ordres de Jem West, commença le tracé entre les blocs qui hérissaient ce côté de la montagne flottante. Flottante? Je ne sais pourquoi je me sers de ce mot, car elle ne flottait plus. Immobile comme un îlot, rien n'autorisait à croire qu'elle dût jamais se remettre en dérive. D'autres icebergs assez nombreux passaient au large, se dirigeant vers le sud-est, alors que le nôtre restait en panne, suivant l'expression de Dirk Peters. Sa base se minerait-elle assez pour se détacher du fond sous-marin? Quelque pesante masse de glace viendrait-elle se jeter sur lui et déraperait-il au choc? Nul ne pouvait le prévoir, et il ne fallait compter que sur l'Holbrain pour abandonner définitivement ses parages. Ces divers travaux nous conduisirent jusqu'au 24 janvier. L'atmosphère était calme, la température ne s'abaissait pas. La colonne thermométrique avait même gagné de 2 à 3 degrés au-dessus de glace. Aussi le nombre des icebergs venus du nord-ouest augmentait-il, une centaine dont la collision aurait pu avoir les plus graves conséquences. Le maître Kalfa Hardy s'était mis tout d'abord à la réparation de la coque, gournable à changer, bout de bordage à remplacer, couture à calfater. Rien ne lui manquait de ce qu'exigeait ce travail, et nous avions l'assurance qu'il serait exécuté dans de bonnes conditions. Au milieu du silence de ces solitudes retentissaient maintenant les coups de marteau frappant les clous dans le bordé et les coups de maillet chassant les touffes entre les coutures. À ces bruits se joignaient d'assourdissants cris de mouettes, de macreuses, d'albatros, de pétrels qui volaient en rond à la cime de l'iceberg. Lorsque je me trouvais seul avec le capitaine Lenghi et Jem West, c'était notre situation actuelle, les moyens d'en sortir, les chances de nous tirer d'affaire qui faisaient, on le pense bien, le principal sujet de nos conversations. Le lieutenant avait bon espoir, et à la condition qu'aucun accident ne survînt d'ici là, il se croyait assuré de réussir l'opération du lancement. Le capitaine Lenghi, lui, montrait plus de réserve. D'ailleurs, à la pensée qu'il allait définitivement renoncer à toute espérance de retrouver les survivants de la Jane, il sentait son cœur se déchirer. Et en effet, lorsque l'Holbrain serait prêt à reprendre la mer, lorsque Jem West lui demanderait la route, oserait-il répondre « Cap au sud » ? Non, et cette fois il n'eût été suivi ni des nouveaux, ni même de la plupart des anciens de l'équipage. Continuer les recherches dans cette direction, s'élever au-delà du pôle, sans être assuré d'atteindre l'océan Indien, à défaut de l'océan Atlantique, c'eût été une audace qu'aucun navigateur n'aurait pu se permettre. Si quelques continents fermaient la mer de ce côté, la goélette se fût exposée à y être acculée par la masse des icebergs et dans l'impossibilité de s'en dégager avant l'hiver austral. En ces conditions, tenter d'obtenir du capitaine Lenghi de poursuivre la campagne c'eût été courir au-devant d'un refus. Ce n'était pas proposable, alors que la nécessité s'imposait de revenir vers le nord, de ne point s'attarder d'un jour en cette portion de la mer Antarctique. Toutefois, si j'avais résolu de ne plus en parler au capitaine Lenghi, je ne laissais pas, à l'occasion, de pressentir là-dessus le bossman. Le plus souvent, sa besogne achevée, Hurliguerly venait me rejoindre, et nous causions, nous remontions dans nos souvenirs de voyage. Un jour, comme nous étions assis au sommet de l'iceberg, le regard fixé sur ce décevant horizon, il s'écria. Qui eût jamais pensé, monsieur Jeorling, lorsque l'Holbrain quitta les Kerguelen, que, 6 mois et demi après, à cette latitude, elle serait accrochée au flanc d'une montagne de glace. Cela est d'autant plus regrettable, répondis-je, que sans cet accident, nous eussions atteint notre but, et nous aurions repris la route du retour.
Je ne vais point à l'encontre, répliqua le bossman, mais vous dites que nous aurions atteint notre but.
Entendez-vous par là que nos compatriotes eussent été retrouvés?
Peut-être, bossman.
Et moi je ne le crois guère, monsieur Jeorling. Bien que ce fût le principal et même le seul objet de notre navigation à travers l'océan polaire.
Le seul, oui, au début, insinuai-je. Mais depuis les révélations du métis au sujet d'Arthur Pym.
Ah! Cela vous tient toujours, monsieur Jeorling, comme ce brave Dirk Peters.
Toujours, Hurliguerly. Et il a fallu qu'un déplorable, un improbable accident vint nous faire échouer au port.
Je vous laisse vos illusions, monsieur Jeorling, et puisque vous croyez avoir échoué au port.
Pourquoi non?
Soit. Et dans tous les cas, c'est un fameux échouage, déclara le bossman. Au lieu de donner sur un honnête bas-fond, allez faire côte en l'air.
Aussi ai-je le droit de dire que c'est une malheureuse circonstance, Hurliguerly.
Malheureuse sans doute, et à mon sens, y aurait-il à en tirer quelque avertissement?
Lequel?
C'est qu'il n'est pas permis de s'aventurer si loin dans ces régions, et m'est avis que le Créateur interdit à ses créatures de grimper au bout des pôles de la Terre. Cependant, ce bout n'est plus maintenant qu'à une 60 000.
D'accord, monsieur Jeorling.
Il est vrai, ces 60 000, c'est comme s'il y en avait 1 000 000, quand on n'a aucun moyen de les franchir. Et si le lancement de la goélette ne réussit pas, nous voici condamnés à un hivernage dont ne voudraient même pas les ours polaires.
Je ne répondis que par un hochement de tête, auquel ne put se méprendre Hurliguerly.
Savez-vous à quoi je pense le plus souvent, monsieur Jeorling? Me demanda-t-il.
À quoi pensez-vous, bossman?
Au Kerguelen, dont nous ne prenons guère le chemin.
Certes, pendant la mauvaise saison, on y jouit d'un beau froid. Pas grande différence entre cet archipel-là et les îles situées sur les limites de la mer Antarctique. Mais enfin, on est à proximité du cap, et s'il vous plaît d'aller vous y réchauffer les mollets, il n'y a point de la banquise pour vous barrer le passage. Tandis qu'ici, au milieu des glaces, c'est le diable pour en démarrer, et on ne sait jamais si l'on trouvera la porte ouverte.
Je vous le répète, bossman, sans ce dernier accident, tout serait terminé à présent, d'une façon ou d'une autre. Nous aurions encore plus de 6 semaines pour sortir des mers australes. En somme, il est rare qu'un navire soit aussi mal pris que l'a été notre goélette. Et c'est une véritable malchance, après avoir profité de circonstances si heureuses.
Fini, ces circonstances, monsieur Jarling, s'écria Hurliguerly. Et je crains bien...
Quoi ? Vous aussi, Bosman ? Vous que j'ai connu si confiant ?
La confiance, monsieur Jarling, cela s'use tout comme le fond d'une culotte.
Que voulez-vous ? Lorsque je me compare à mon compère Atkins, installé dans sa bonne auberge, lorsque je songe au cormoran vert, à la grande salle du bas, aux petites tables où l'on déguste le whisky et le gin avec un ami, alors que le poêle ronfle plus fort que ne crie la girouette sur le toit. Eh bien, la comparaison n'est point à notre avantage, et, à mon avis, maître Atkins a peut-être mieux compris l'existence.
Eh ! Vous le reverrez, ce digne Atkins, Bosman, et le cormoran vert, et les Kerguelen. Pour Dieu, ne vous laissez point aller au découragement. Et si vous, un homme de bon sens et de résolution, désespérez déjà...
Ah, oh, s'il n'y avait que moi, monsieur Jarling, ce ne serait que demi-mal.
Est-ce que l'équipage...
Oui et non, répliqua Hurliguerly, car j'en connais qui ne sont point satisfaits.
Irne a-t-il recommencé à récriminer et excite-t-il ses camarades ?
Pas ouvertement, du moins, monsieur Jarling. Et depuis que je le surveille, je n'ai rien vu ni entendu.
Il sait d'ailleurs ce qu'il attend, s'il remue la patte.
Aussi, je crois ne point faire erreur, le finot a-t-il changé ses amures ?
Et ce qui ne m'étonne guère de lui, m'étonne de notre maître voilier, Martin Holt.
Que voulez-vous dire, Bosman ?
Que tous deux paraissent être en bons termes.
Observez-les. Irne recherche Martin Holt, cause souvent avec lui, et Martin Holt ne lui fait pas trop mauvaise mine.
Martin Holt, je suppose, n'est pas homme à écouter les conseils de Irne, répondis-je, ni à le suivre s'il tentait de pousser l'équipage à la révolte.
Non, sans doute, monsieur Jarling.
Cependant, cela ne me plaît guère de les voir ensemble. Un particulier dangereux et sans conscience, ce Irne, et dont Martin Holt ne se méfie peut-être pas assez.
Il a tort, Bosman.
Eh, tenez, savez-vous de quoi il causait l'autre jour, dans une conversation dont il m'est arrivé quelques bribes à l'oreille ?
Je ne sais jamais les choses qu'après que vous me les avez dites, Hurliguerly.
Eh bien, tandis qu'il bavardait sur le pont de l'Holbrain, je les ai entendus parler de Dirk Peters. Et Irne disait « Il ne faut pas en vouloir aux métis, maître Holt, de ce qu'il n'a jamais voulu répondre à vos avances, à recevoir vos remerciements. Si ce n'est qu'une sorte de brute, il possède un grand courage, et il l'a prouvé en vous tirant d'une mauvaise passe au péril de sa vie. Au surplus, n'oubliez pas qu'il faisait partie de l'équipage du Grand Pouce, dont votre frère Ned, si je ne me trompe. »
« Il a dit cela, Bosman ?»
me suis-je écrié.
« Il a nommé le Grand Pouce ?»«
Oui, le Grand Pouce. » »«
Et Ned Holt ?»«
Précisément, monsieur Jarling. » »«
Et qu'a répondu Martin Holt ?»«
Il a répondu, « Mon malheureux frère, je ne sais même pas dans quelles conditions il a péri. Est-ce pendant une révolte à bord ?» En brave qu'il était, il n'a pas dû trahir son capitaine, et peut-être a-t-il été massacré.
Est-ce que Irne a insisté, Bosman ?
Oui, en ajoutant. C'est triste pour vous, maître Holt. Le capitaine du Grand Pouce, à ce qu'on m'a raconté, fut abandonné dans un canot, avec deux ou trois de ses hommes. Et qui sait si votre frère n'était pas avec lui ?
Et après ?
Après, monsieur Jarling, il a ajouté. Est-ce que vous n'avez pas eu l'idée de demander à Dirk Peters de vous enseigner ?
Si, une fois, répliqua Martin Holt.
J'ai interrogé le métis là-dessus, et jamais je n'ai vu un homme dans un tel état d'accablement, répondant « Je ne sais pas, je ne sais pas », d'une voix si sourde que je pouvais à peine le comprendre, et il s'est sauvé en se cachant la tête dans ses mains.
C'est tout ce que vous avez entendu de cette conversation, Bosman ?
Tout, monsieur Jarling, et elle m'a paru assez singulière pour que j'aie voulu vous mettre au courant.
Et qu'en avez-vous conclu ?
Rien, si ce n'est que je regarde le Sailing Master comme un coquin de la pire espèce, parfaitement capable de travailler en secret à quelque mauvais dessein, auquel il voudrait associer Martin Holt.
En effet, que signifiait cette nouvelle attitude de Irne ? Pourquoi cherchait-il à se lier avec Martin Holt ? L'un des meilleurs de l'équipage. Pourquoi lui rappelait-il ainsi les scènes du Grand Pouce ? Est-ce que Irne en savait,
à ce sujet, plus long que les autres, sur Dirk Peters et Ned Holt, ce secret dont le métis et moi, nous croyons être les seuls dépositaires. Cela ne laissa pas de me causer une sérieuse inquiétude. Toutefois, je me gardais de n'en rien dire à Dirk Peters. S'il eût pu soupçonner que Hearn causait de ce qui s'était passé à bord du Grand Pouce, s'il eût appris que ce coquin, comme l'appelait non sans raison Hurliguerly, ne cessait de parler de son frère Ned à Martin Holt, je ne sais trop ce qui serait arrivé. En somme, et quelles que fussent les intentions de Hearn, il était regrettable que notre maître voilier, sur lequel devait à bon droit compter le capitaine Langy, fut en liaison avec lui. Le Sailing Master avait certainement ses raisons pour agir de la sorte, lesquelles je ne pouvais les deviner. Aussi, bien que l'équipage parût avoir abandonné toute idée de révolte, une sévère surveillance s'imposait, surtout à l'égard de Hearn. Du reste, la situation allait prendre fin, du moins en ce qui concernait la goélette. 2 jours après, les travaux furent terminés. On avait achevé de réparer la coque et de creuser le lit de lancement jusqu'à la base de notre montagne flottante. À cette époque, la glace étant légèrement ramollie à sa couche supérieure, ce dernier travail n'avait point exigé de grands efforts de pic et de pioche. Le lit contournait obliquement le flanc ouest de l'iceberg, de manière à n'offrir aucune pente trop raide. Avec des grelins de retenue convenablement disposés, le glissement, semblait-il, devait s'effectuer sans occasionner aucun dommage. Je craignais plutôt que le relèvement de la température ne rendît ce glissement moins facile sur le fond du lit. Il va de soi que la cargaison, les mâtures, les ancres, les chaînes, rien n'avait été remis à bord. La coque étant déjà fort lourde, peu maniable, il importait de l'alléger autant que possible. Lorsque la goélette aurait retrouvé son élément, la réarmer serait l'affaire de quelques jours. Dans l'après-midi du 28, les dernières dispositions furent prises. Il avait fallu étayer latéralement le lit en quelques endroits où la fusion de la glace s'accentuait. Puis repos fut accordé à tout le monde à partir de 4 heures du matin. Le capitaine Langy fit alors distribuer double ration à ses hommes, et ils méritaient ce surcroît de whisky et de gin, car ils avaient rudement travaillé pendant cette semaine. Je répète que tout ferment d'indiscipline paraissait avoir disparu, depuis que Hearn n'excitait plus ses camarades. L'équipage, tout entier on peut le dire, ne se préoccupait que de cette grosse opération du lancement. L'Holbwaine à la mer, c'était le départ, c'était le retour. Il est vrai, pour Dirk Peters comme pour moi, c'était le définitif abandon d'Arthur Pym. La température de cette nuit fut une des plus élevées que nous eussions éprouvées jusqu'alors. Le thermomètre marqua 53 degrés, 11,67 degrés centigrades sur zéro. Aussi, bien que le soleil commençât à se rapprocher de l'horizon, la glace fondait, et 1000 ruisseaux sinuaient de toutes parts. Les plus matineux se réveillèrent dès 4 heures, et je fus du nombre. C'est à peine si j'avais dormi, et j'imagine que Dirk Peters, de son côté, n'avait pu trouver le sommeil à la pensée désolante de revenir en arrière. L'opération du lancement devait commencer à 10 heures. Tout en comptant avec le retard possible, eu égard aux minutieuses précautions qu'il convenait de prendre, le capitaine Langy espérait qu'elle serait terminée avant la fin du jour. Personne ne doutait que, le soir venu, la goélette ne fût descendue au moins à la base de l'iceberg. Il va de soi que nous devions tous prêter la main à cette difficile manœuvre. À chacun, un poste était assigné, auquel il devrait se tenir, les uns pour faciliter le glissement avec des rouleaux de bois, s'il le fallait aider, les autres au contraire pour le modérer, en cas que la descente menaçât d'être trop rapide et qu'il eût lieu de retenir la coque au moyen de grelins et d'ossières disposées à cet effet. Le déjeuner fut terminé à 9 heures sous les tentes. Nos matelots, toujours confiants, ne purent s'empêcher de boire un dernier coup au succès de l'opération, et nous joignîmes nos hurrahs un peu prématurés aux leurs. Du reste, les mesures avaient été conçues avec tant de sagacité par le capitaine Langy et le lieutenant que le lancement présentait de très sérieuses chances de réussite. Enfin, nous allions quitter le campement et gagner notre poste. Quelques-uns des matelots s'y trouvaient déjà, lorsque retentirent des cris de stupéfaction et d'épouvante. Quel effrayant spectacle! Et si court qu'il ait été, quelle ineffaçable expression de terreur il a laissé dans nos âmes! Un des énormes blocs qui formait le talus de la souille, où gisait Holbrain, déséquilibré par la fusion de sa base, venait de dévaler et roulait en énormes bonds par-dessus les blocs. Un instant après, la goélette, n'étant plus retenue, oscillait sur cette ponte. Il y avait à bord, sur le pont, à l'avant, deux hommes, Rogers et Gracian. En vain ces malheureux voulurent-ils sauter par-dessus les bastingages, ils n'en eurent pas le temps, et furent entraînés dans l'effroyable chute. Oui, j'ai vu cela. J'ai vu la goélette se renverser, glisser d'abord sur son flanc gauche, écraser une des recrues, qui tarda trop à se jeter de côté, puis bondir de bloc en bloc, et enfin se précipiter dans le vide. Une seconde après, défoncé, disloqué, le bordage ouvert, la membrure brisée, Holbrain s'engloutissait, en faisant rejaillir une énorme gerbe d'eau au pied de l'iceberg.